RCF.
Guérir, une quête contemporaine, c'est le titre du livre que vous co-signez, Jean-Marie Guelette, avec l'anthropologue Laurent Denisot, un livre paru au Cerf, et dans lequel vous analysez ce qu'est la maladie, comment tenter d'y faire face. Je rappelle que vous êtes médecin, prêtre dominicain, et nous évoquions avec vous la question de la guérison dans les évangiles. Vous disiez qu'il ne fallait pas confondre guérison et salut. Salut, c'est vivre dans l'amour de Dieu, et on n'a pas forcément une santé de fer et on n'est pas super puissant quand on est en Dieu. On a le droit d'être malade, d'être abîmé. Cela dit, faut-il demander la guérison quand on est chrétien? Faut-il demander à Dieu de nous guérir?
Bien sûr, on le fait, c'est tout à fait normal. Si on est atteint par une maladie qui nous angoisse, qui nous inquiète, ou par une maladie qui nous fait souffrir, on ne pense qu'à ça, on n'a qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. Donc évidemment, si nous avons une prière qui n'est pas trop déconnectée de ce que nous sommes, bien sûr, on va appeler Dieu au secours. Toute la question n'est donc pas de savoir si on a le droit de le faire, on le fait, mais c'est de toujours se rappeler que l'essentiel n'est pas là, quoi, que l'essentiel est dans la relation que nous vivons avec lui et non pas dans l'efficacité qu'il pourrait avoir à notre service.
L'essentiel n'est pas là, mais quand on est malade ou quand on est proche aussi d'un malade, on désire, on a envie, c'est l'important pour nous qu'il recouvre la santé.
Peut-être qu'on c'est intéressant qu'on s'arrête sur la différence entre c'est important et c'est essentiel.
Alors la différence.
C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Je crois que c'est l'un des grands pièges qui nous fait tant souffrir dans la maladie, c'est si l'identification du malade à sa maladie qui fait qu'il n'est plus que cela, qu'il ne parle que de cela, que ses proches ne lui parlent que de cela, et que alors c'est terrifiant parce que d'une part c'est un appauvrissement dramatique de son identité, et puis cela peut être un obstacle à sa guérison parce que si toute son identité est réduite au fait d'être malade, un certain nombre de personnes ne vont pas oser quitter ce lieu-là. Elles vont avoir peur de guérir parce qu'elles vont se dire mais comme je n'existe que par ma maladie, si je suis malade, je disparais quoi.
On appelle ça les bénéfices secondaires d'une maladie.
Oui, tout à fait. Donc je crois que c'est capital de dire bien sûr c'est important d'aspirer à la guérison, mais en même temps ce n'est pas l'essentiel et en particulier dans la vie spirituelle c'est capital ça de se dire l'aspiration à la guérison n'est pas l'essentiel de la vie chrétienne. Ce qui est l'essentiel c'est l'aspiration à la vie avec Dieu et à une vie d'amour de Dieu et de ses frères. Je reviens inlassablement parce que c'est un texte qui, de ce point de vue-là, devrait nous questionner. C'est l'épisode du paralytique. Enfin, on nous dit des amis amènent cet homme sur un brancard dans un endroit où Jésus est en train de parler. Il y a tellement de monde qu'ils peuvent pas approcher, donc on nous dit il passe par le toit pour descendre le paralytique juste devant Jésus. Donc ils ont quand même été assez créatifs, ces braves gens. Et l'Écriture nous dit voyant leur foi, Jésus lui dit tes péchés sont pardonnés. C'est quand même complètement déroutant, cette affaire-là. Ils ont fait un effort terrible pour, évidemment, amener ce malade au pied de quelqu'un qu'ils considèrent comme un grand thérapeute de son temps. Et là-dessus, le thérapeute répond « Tes péchés sont pardonnés ». On a envie de lui dire « Mais t'as pas vu la scène, non? T'as pas vu ce qui vient de se passer ?»
Donc,
t'as pas vu dans quel état il est,
ce gars ? Il venait pour une histoire de corps.
Et il répond « Tes péchés sont pardonnés ».
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Et ça scandalise. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, ça scandalise tout le monde. Enfin, ça, en tout cas, ce qui nous est dit dans le récit, c'est que les gens qui sont scandalisés, c'est pas de dire « Mais il a rien compris, il fallait le guérir, on se fiche des péchés ». C'est les scribes qui disent « Ah, mais attention, est-ce qu'il a le droit de pardonner ?»
Seul Dieu pardonne.
Et à ce moment-là que Jésus dit « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton brancard, lève-toi et marche. »
Oui, mais quel est le rapport entre les deux ?
Eh ben, le rapport, c'est que le relèvement du paralytique est un signe de la puissance salvifique de Dieu, mais il est clair dans ce texte que ce pourquoi Jésus est venu, le don immense qu'il fait à cet homme, c'est le pardon.
Avant tout.
dont la guérison est un signe, mais vraiment dans un autre registre. C'est pour ça que, évidemment, pour cet homme, c'est important, la guérison, mais c'est pas l'essentiel. Et donc, je crois que c'est capital, ça, parce que c'est vraiment de l'ordre de, d'une expérience de salut pour beaucoup de personnes malades, que le jour où elles osent franchir ce pas. Et vraiment, je ne dis pas ça par insouciance ou par désinvolture en disant être cancéreuse, ça n'a pas d'importance. Bien sûr que si, c'est très important et c'est très angoissant. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas notre identité, quelle que soit la gravité de notre maladie. Nous ne sommes pas cette maladie.
Jean-Marie Guelette, on voit aujourd'hui des groupes de guérison se monter un peu partout. Alors on trouve ça dans l'Église, dans les églises évangéliques, mais aussi dans le christianisme catholique. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? C'est vrai que c'est un phénomène un peu à la mode, entre guillemets.
Oui, le protestantisme évangélique, ça date beaucoup plus que chez nous, puisqu'il y a eu un certain nombre de grands leaders du protestantisme anglophone en particulier, qui dès le XVIIIe siècle, si vous pensez à John Wesley par exemple, le fondateur du méthodisme, faisait de l'action thérapeutique une dimension essentielle de la prédication chrétienne. Et puis au début du XXe siècle est né le pentecôtisme, qui a considéré qu'il fallait vivre aujourd'hui ce que vivaient les premières communautés dont nous parle le Nouveau Testament. Donc c'est pas tout à fait d'aujourd'hui, ça a gagné sûrement du terrain, et ça a gagné dans le monde catholique, parce que nous sommes dans une époque où nous avons intégré l'idée que la sortie de la maladie était possible. Nous l'avons intégré, cette idée, grâce à la médecine, et donc ça a marqué notre vie spirituelle. Alors si c'est l'occasion de redécouvrir que notre corps participe à notre vie spirituelle, que notre corps a de l'importance pour Dieu.
Que nous sommes unis, corps, âme, esprit, c'est ça?
Que nous sommes unis et que la bienveillance de Dieu à notre égard est aussi une bienveillance pour notre corps. Je pense que c'est une grande étape. En revanche, si cela devient le mode unique, on pourrait dire, de la vie spirituelle, c'est là qu'on peut se poser des questions, parce que il faut jamais oublier que le mystère de Dieu nous étant inaccessible dans sa globalité, nous avons absolument besoin de jouer sur des registres variés pour tenter d'en apercevoir quelque chose. Alors bien sûr, l'Écriture nous parle du Christ comme médecin, mais elle nous parle aussi du Christ comme pasteur, du Christ comme enseignant, du Christ comme juge, du Christ comme frère, du Christ comme ami. Bon.
Vous voulez dire qu'il y a un risque d'instrumentaliser Dieu, de le réduire à un rôle qui serait celui du thérapeute exclusivement ?
Il y a deux choses. Il y a la réduction déjà du mystère à une porte d'entrée. Et je dis, les quelques attributs que je venais d'évoquer, là, on les trouve à toutes les pages de la Bible. Donc il nous faut jouer là-dessus, si on peut dire. Il faut nous dire, aucun de ces attributs n'est le seul. Parce que, deuxième conséquence, si on choisit l'un d'eux, par exemple le Christ médecin, comme la seule modalité de compréhension du mystère du Christ et d'entrer en relation avec lui, alors à ce moment-là, on va le regarder uniquement comme un médecin. Et une fois encore, je ne pense à mon médecin que quand je suis malade. Je ne suis pas en relation avec mon médecin. Je lui demande de me rendre service quand j'en ai besoin. Et puis quand j'en ai plus besoin, je pense plus à lui. Donc ça peut devenir très réducteur. Et on voit en effet des personnes qui sont très marquées par ce genre de démarche spirituelle, qui vont avoir l'impression que le seul moyen d'être, on pourrait presque dire, d'attirer l'attention du Christ, c'est d'être malade, c'est d'être souffrant. Et donc ils vont vous parler inlassablement de leurs blessures, puis ils vont vous dire: ah, Jésus m'a guéri de mes blessures. Et puis 6 mois après, vous les retrouvez, vous dites: ah, mais vous savez, il y a des blessures plus profondes qui sont apparues, il faut que Jésus me guérisse de ça. Enfin, on n'a jamais fini, parce que comme le seul mode de relation est la thérapeutique, moi, il faut que je sois malade pour que Jésus s'intéresse à moi. Quoi. Donc c'est terriblement réducteur.
Avec un fantasme d'une guérison totale à atteindre, et qu'il y aurait toujours quelque chose à guérir.
Voilà, et c'est évidemment jamais fini cette affaire-là. Donc c'est une modalité, c'est comme si on prenait un orgue et qu'on jouait un seul jeu. Oui, c'est pas mal, mais il y a tous les autres.
Il y a toutes les modalités du jeu avec Dieu. Alors, sur le don de guérison, parce que quand même, le Christ envoie ses disciples leur donnant pouvoir de chasser les esprits mauvais, de guérir.
Oui, parce que l'annonce du salut est l'irruption d'une libération profonde de l'être humain de ce qui l'opprime. Et il ne faut pas non plus, de ce point de vue-là, que le regain d'intérêt pour la guérison individuelle nous fasse oublier toutes les autres modalités d'écrasement de l'être humain qui sont plus d'ordre économique, politique, militaire, etc. Mais l'annonce du salut se traduit par l'irruption dans ce monde d'une puissance de libération. Alors, bien sûr, ça comporte aussi, pour une part, une libération d'ordre corporel, mais...
Donc dans le monde qui est le nôtre, il y a d'autres types de maladies, ce qu'on pourrait appeler des maladies de l'âme aussi.
Bien sûr, et puis il ne faut pas non plus oublier qu'en théologie catholique, nous avons quelque chose qui est très important, c'est la question de la médiation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de regarder la prière de guérison comme la seule manière d'articuler le registre de la thérapeutique avec le registre du spirituel, avec la relation à Dieu. Enfin, je crois que c'est tout à fait important d'être capable de prier pour son chirurgien, de rendre grâce à Dieu pour tel thérapeute qui nous a fait du bien parce qu'il était très bon, il était très compétent. Vous savez, c'est le livre du Siracide qui dit ça dans la Bible. Hein. Bénis Dieu pour ton médecin parce qu'il l'a créé, virgule, lui aussi. Et donc de regarder les efforts de la médecine ou les efforts de tous les thérapeutes que nous pouvons rencontrer comme des médiations par lesquelles la bienveillance de Dieu à notre égard nous rejoint tout autant que dans un groupe de prière.
Nous terminerons demain ces entretiens, Jean-Marie Guelette.